Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'EWI. Je m'appelle Virginie, je suis française et professeure de français en ligne chez EWI. Avec ce podcast, je vous aide à améliorer votre français dans un contexte réel et concret pour pouvoir parler, réagir et interagir comme un vrai français. Je vous souhaite un excellent moment et c'est parti avec EWI. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'EWI. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à télécharger un PDF que j'ai créé spécialement pour vous qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français. Que vous ayez un niveau intermédiaire, débutant ou avancé, ce manuel vous aidera dans votre apprentissage du français. Vous pouvez le télécharger sur mon site internet ewionline.com et vous recevrez une newsletter de qualité régulièrement qui vous aidera aussi dans votre apprentissage du français où je parle de culture, de grammaire, de vocabulaire, etc. ewionline.com. Alors, dans ce nouvel épisode et deuxième partie, je vais répondre au reste des questions que vous m'avez posées. Alors, la prochaine question que vous m'avez posée. Donc, bonjour Virginie. J'aimerais un podcast avec vous parce que j'aime votre personnalité, votre humour, votre façon de communiquer. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je m'intéresse aux expériences comme professeur de langues étrangères. À votre avis, quelles sont les expressions françaises idiomatiques le plus souvent mal interprétées ? Alors ça, c'est une question générale. Donc si ça vous intéresse, il y a plusieurs épisodes que j'ai faits où je parle d'expressions idiomatiques, de proverbes. Et je me réfère donc, par exemple, j'ai fait un épisode de podcast, les épisodes 87 et 88, où je parle des expressions idiomatiques. Je pourrais pas malheureusement en particulier dire quelles expressions idiomatiques les élèves confondent. Je me rappelle juste une petite anecdote. J'avais un ex-beau-frère espagnol qui parlait bien, français. Et je me rappellerai toujours, je trouvais ça tellement mignon et tellement drôle. Il disait je vais être à la poêle. Et il voulait dire être à poil. Alors, est-ce que vous entendez la différence ? Être à poil, c'est une expression familière pour dire être nu, ne pas avoir de vêtements, être à poil. Donc, le poil, c'est ça, les poils du corps. Et la poêle ou la poêle, ça dépend des régions, c'est ce que vous cuisinez, c'est l'ustensile que vous utilisez pour cuisiner, pour frire, etc. Donc, il a confondu être à poil, qui est une expression idiomatique, et être à la poêle, qui ne signifie absolument rien. Mais voilà, la poêle ou la poêle, c'est ce que vous utilisez pour cuisiner. Donc, je trouvais ça super mignon. Les expressions idiomatiques, en général, les erreurs que j'entends, c'est, par exemple, quand une préposition est mal utilisée. Voilà, ça peut être comme ça. Il y avait aussi la différence entre coucher et se coucher. Et ça, c'est mon mari qui a fait cette grave erreur devant ma mère. Nous étions en France et mon mari, donc, qui était mon copain à l'époque, on n'était pas encore mariés, était en train d'apprendre le français. Il avait un petit niveau intermédiaire. Et on était avec ma mère et mon frère et il était tard. On jouait aux cartes. Il était tard. Il était temps d'aller se coucher. Et mon mari, pour montrer à ma mère qu'il pratiquait et qu'il savait parler français, disait « Allez Virginie, on va coucher ». Alors, ma mère, moi et mon frère, on était morts de rire. Pourquoi ? Parce que « on va coucher », ça signifie avoir des relations sexuelles. Donc, dire ça devant ma mère, c'est pas très classe. Il aurait dû dire « on va se coucher ». Donc, « se coucher », c'est le verbe pronominal pour dire « aller donc au lit pour dormir. Voilà. Donc attention, faites bien la différence entre coucher et se coucher. Donc ça, c'est pas une expression idiomatique, mais c'est souvent une erreur que j'entends très 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 souvent des apprenants de français. Voilà. Ensuite, autre question. Est-ce que les adjectifs nouveau, vieux, beau peuvent être placés juste après le substantif de temps en temps? Alors j'ai bien j'ai bien réfléchi à cette question pour voir s'il y avait des exceptions et non. Les adjectifs courts et qu'on utilise très souvent, dont vieux, beau, etc., nouveau, doivent être placés avant le substantif. Ouais. Il y a des mots, des adjectifs qui peuvent être utilisés avant ou après et qui ont des significations, des sens différents. Mais par contre, pour les adjectifs que vous avez mentionnés, nouveau, vieux, beau, il faut les mettre avant le substantif, d'accord ? C'est une vieille voiture, c'est un nouvel appartement, c'est une belle maison, voilà, c'est avant le substantif. Ensuite, salut, raconte-nous, parle-nous de ta formation, parce qu'il y a des petites erreurs, donc j'essaie de les corriger. Parle-nous de ta formation comme professeur de français et si tu conseilles ce métier. Merci pour tes vidéos. Alors moi, comme professeur de français, moi j'ai toujours su, depuis adolescente, que je voulais être prof. Pas forcément pour les étrangers, parce que j'étais pas encore assez mature pour ça, et puis j'aimais pas, j'étais pas forcément intéressée, j'étais pas intéressée par les langues. J'aimais bien l'allemand, mais l'anglais ne m'intéressait pas. Pourquoi ? Parce que en France, les langues sont pas bien enseignées. C'est pas intéressant, c'est chiant. C'est vraiment chiant. C'est chiant, c'est un mot que j'utilise beaucoup. C'est le, ça signifie c'est ennuyant. C'est vraiment chiant. Donc moi, je voulais être prof de français, mais prof de français pour les Français, au collège et au lycée, c'est-à-dire enseigner la littérature, etc. Et j'ai eu ma licence de lettres modernes à 21. J'ai terminé à 21 ans. Parce que en France, c'est le système européen, les licences, donc licence bachelor's degree, c'est en 3 ans. C'est en 3 ans. Et moi, à 21 ans, j'avais terminé ma licence et j'ai pris un an sabbatique pour aller en Angleterre comme fille au pair, où je travaillais comme fille au pair. Et c'est là que je réalisais, ben, waouh, ça me plaît bien être en contact avec les étrangers, les autres cultures. Et c'est là que j'ai réalisé, pourquoi pas compléter mon profil et faire un master de français langue étrangère. Et parce que c'était la porte ouverte, parce que je savais qu'avec ce métier, ça allait être facile de vivre dans un autre pays. Et parce que comme prof de français avec les alliances françaises, etc., ça allait être facile de trouver du travail. Est-ce que je conseillerais ce métier ? Alors, si vous voulez bien gagner votre vie, non. Non. C'est très... Donc, je gagne mieux ma vie, bien sûr, depuis que je suis à mon compte, parce que les alliances françaises payent très, très mal. Ils payent au salaire local, donc avec la monnaie locale, pardon, et au salaire local. Donc, si vous êtes dans un pays en voie de développement... ou un pays où les salaires sont pas élevés, eh ben, vous gagnerez très très mal. C'est ce qui s'est passé pour moi au Mexique. Je gagnais très mal ma vie. Et c'est pour ça que moi, je pensais rentrer en France. Et juste avant de partir, j'ai rencontré mon mari. Et voilà. Mais je ne conseille pas ce métier si vous voulez bien gagner votre vie. Si pour vous, le salaire n'est pas important et que pour vous, voyager, etc., c'est bien, pourquoi pas ? Mais si vous avez d'autres besoins, si vous voulez voilà, avoir un bon salaire, je ne vous conseille pas ce travail. Parce que malheureusement, dans beaucoup de pays, et la France, j'inclus la France, les profs ne sont pas reconnus pour ne sont pas bien reconnus et donc sont mal payés. Moi, si je devais retourner travailler pour l'éducation nationale en France, je le ferais parce que j'y serais obligée, parce que les salaires sont très très bas. Et les profs, et ce qui aussi, ce que je n'aime pas non plus de ce métier-là, c'est que c'est très précaire. Pas quand vous êtes à votre compte, c'est votre responsabilité, mais quand on travaille dans des écoles de langue, c'est souvent des contrats, des CDD. Donc CDD, c'est contrat à durée déterminée. Donc c'est bien pour l'été, parce qu'il y a beaucoup plus d'élèves dans les écoles de langue. Voilà. Donc ça, C'est ce que je n'aime pas de ce métier. Après, c'est quand même beaucoup de liberté. C'est bien, je trouve, quand on est plus jeune, quand on n'a pas d'enfant à charge. Mais quand on est parent, comme moi, par exemple, oh, ouais. Si je devais refaire, si je devais refaire, si je devais prendre la décision de refaire ma vie, le seul point négatif pour moi, c'est ça, cette précarité. Cette précarité et le fait que quand on est prof, on n'est pas forcément reconnu. Voilà. Et c'est aussi, je trouve, le marché du professorat qui tire les prix vers le bas. Parce qu'il y a absolument de tout. Vous pouvez absolument trouver un prof qui va vendre son cours 5 $ de l'heure. Et c'est ça, en fait, dans le monde du professorat, en ligne en tout cas, il peut y avoir des profs qui vont se vendre à 5 $ de l'heure et jusqu'à des profs qui vont se vendre à 250 $ de l'heure. Donc c'est ça qui est compliqué. Je trouve que t'es prof, donc tu dois être pauvre. C'est ça que je n'aime pas dans cette mentalité dans le monde du professorat. C'est ça, c'est tu dois faire vœu de pauvreté. Voilà. Tu dois faire vœu de pauvreté quand tu choisis d'être professeur et je ne trouve pas ça juste. Parce que on étudie, la majorité, pas la, ma la majorité des profs ont un master, voire un doctorat, etc. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu, je trouve, dans le monde du professorat. Mais je ne, moi, depuis que je me suis lancée en ligne, je suis très chanceuse. Après, je travaille beaucoup aussi pour que ça se passe bien et pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, moi, c'est la forme d'enseignement que je préfère. J'ai enseigné une dizaine d'années en collège, lycée, j'ai fait tous les formats, université, etc., cours de groupe, c'est ce que je préfère. Les cours individuels en ligne, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon kiff. Mon kiff, c'est une expression familière pour dire que j'aime beaucoup ça, j'adore. Ensuite, autre question. Bonjour, les différences culturelles avec ton mari et ta belle-famille. Ouh là là! Sujet délicat. Non, je rigole. Ça a été un sujet compliqué à notre retour à Durango. Pourquoi? Parce que c'était la première fois. Donc, avec mon mari et moi, nous sommes ensemble depuis 9 ans, et c'était la première fois en 9 ans que nous vivions dans la ville où habite sa famille. Donc ça a été très très compliqué, très très compliqué. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ben déjà ben, le Mexique au Mexique les la famille latine est quand même est structurée différemment de la famille en France. Bon, je généralise, je caricature, mais en général, c'est vrai que les Mexicains sont plus près de leur famille que nous les Français. Moi, je me considère comme une personne indépendante. Il faut être indépendant de toute façon quand on fait le choix de vivre loin de sa famille. Mais moi, je peux très bien appeler ma mère une fois toutes les 2 semaines. On s'envoie bien sûr des WhatsApp, etc. régulièrement. Par contre, j'ai pas besoin d'avoir ma mère au téléphone tous les jours. C'est pas un besoin. Alors que ça a été compliqué parce que mon mari, c'est un appel de son frère, de son père, de sa mère, etc. presque tous les jours. Et ça a été compliqué pour moi parce que c'est pas ma culture. C'est pas ma culture. Je trouvais mon espace personnel envahi par tous ces appels. Et voilà. Donc comment je gère ça? La compréhension. J'arrive à mieux comprendre. Il y a eu beaucoup de choses que je ne comprenais pas de la société mexicaine que je comprends maintenant. Donc ça a mis du temps. Et voilà. Donc je gère mieux ça. J'accepte mieux aussi le fait que, bah voilà, mon mari, sa famille, ça fonctionne d'une certaine manière, ma famille, ça fonctionne d'une autre manière, et voilà, c'est ça les complications d'un couple mixte. Donc un couple mixte, ça, beaucoup, je trouve ça génial être un couple mixte. Par contre, il y a ces différences culturelles qui peuvent aussi freiner, qui peuvent rendre difficile la relation d'un couple mixte. Voilà, la compréhension de l'autre, c'est ça, c'est rester ouvert d'esprit Et voilà, être compréhensif. Donc moi, j'essaie vraiment d'être beaucoup plus compréhensif qu'avant aussi, et d'accepter que ce sont des modèles différents, et c'est aussi plus facile pour moi de me dire qu'on ne restera pas non plus, je ne resterai pas jusqu'à la fin de ma vie à Durango. Ça aussi, c'est comme une porte de sortie. Ça, me dire que je ne resterai pas tout le temps ici, ça m'aide énormément aussi à me calmer et à être plus tranquille. Mais ça va mieux qu'au début, ça c'est sûr. Donc j'arrive à gérer mieux ça par rapport à la compréhension. J'arrive à mieux comprendre, je suis plus compréhensive et lui aussi est plus compréhensif de mes différences culturelles. Parce qu'on a fait le choix d'être ensemble et on s'est accepté et on s'aime aussi pour nos différences. Et voilà, les différences, ça peut être positif mais aussi négatif. Différence culturelle avec mon mari, alors ce qui a été très compliqué aussi pour moi, c'est la manière dont il gère le temps. Moi, je suis une personne qui est très structurée, très ponctuelle, et lui, c'est el ahorita mexicano. El ahorita mexicain, c'est moi je dirais que c'est comme el inshallah en arabe, c'est-à-dire on verra. Voilà, ahorita, c'est. Ça signifierait, si on veut le traduire, maintenant, tout de suite. Mais le ahorita, tout de suite mexicain, peut signifier dans 5 minutes, dans 1 heure, ou dans 1 semaine, ou jamais. Voilà. Donc, ça, la manière dont mon mari gère le temps, ça a été extrêmement compliqué, pas du tout ponctuel. Au début, ça a été une catastrophe quand on est arrivé ici. En particulier aussi parce qu'on habite dans une ville où c'est possible de ne pas être ponctuel. C'est accepté, on est dans un système où le manque de ponctualité est accepté. Et ça a été très difficile pour moi. Il a fait beaucoup d'efforts, même si ce n'est pas parfait, je sais qu'il fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Ça, pour moi, c'est la grosse différence culturelle entre lui et moi. La proximité avec la famille, ça aussi. La proximité, donc comme je le disais, voir sa famille, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas les voir très souvent, ça aussi, ça peut être un problème au niveau culturel pour moi. Autre chose, non, je dirais que c'est à peu près tout pour moi. La manière dont il gère le temps et la proximité avec la belle famille. Ensuite, si tu n'étais pas enseignante, quel autre métier aimerais-tu tenter? Traduction. Moi, la traduction, ça me plairait bien. Malheureusement, je dois aussi être objective. Les masters de traduction sont très chers. Sont très, très chers. Est-ce que j'aurais envie d'étudier de nouveau? Non. Et la traduction est aussi un monde très précaire. Donc, il faut vraiment que je sois raisonnable. C'est clair que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, mais je dois aussi être objective. Anglais, pardon, si je faisais de la traduction, ce serait de l'espagnol au français. Et il y a déjà énormément de traducteurs sur le marché de l'espagnol au français et vice-versa. Donc voilà, ça aurait été un métier qui m'aurait tenté, mais non, je dois être objective. Il y a trop de précarité dans le monde de la traduction je pense que c'est aussi un marché saturé. Et je ne sais pas du tout ce que deviendra le métier de la traduction avec l'intelligence artificielle. Donc voilà. Ensuite, une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire de la ligne dans la phrase suivante? J'espère que la neige sera encore là afin de continuer à apprendre à Paul à skier et à faire de la ligne avec Anna. Je suis désolée, je comprends pas. Faire de la ligne, j'ai cherché pourtant, je me dis que c'est un sport que je ne connais pas. Non. Donc, pardon pour la personne qui m'a posé cette question. Faire de la ligne, ça n'a pas de sens pour moi. Et enfin, une dernière question. Les mots relatifs au temps, par exemple, d'ici, des. Y compris les mots qui changent, par exemple, dans le passé, le présent, le futur, comme pendant, depuis, pour. Alors, pour la personne qui m'a posé cette question, j'ai fait plusieurs épisodes de podcast sur les expressions de temps où je parle de tout ça, pendant, depuis, pour, Alors, je les mentionne, ce sont les épisodes 10, 11, 15 et 76. J'ai parlé de ces expressions de temps dans ces épisodes de podcast. Par rapport à d'ici, on pourrait dire d'ici là. Par exemple, mon fils arrive à 18h. D'ici là, elle a accent grave, d'ici là, on a le temps de voir un film. Donc là, ce serait before then. Donc, mon fils arrive à 18h. Entre-temps, on peut voir un film. D'ici là. Mais je parle de toutes ces expressions dans les épisodes 10, 11, 15 et 76. Voilà pour cet épisode de podcast, ce dernier épisode où je réponds à vos questions. Donc, ça m'a beaucoup plu ce format m'a beaucoup plu. Naturellement, je parle plus vite. J'ai fait le choix de parler plus vite. Si c'est compliqué pour vous, si vous m'écoutez en format podcast, cet épisode est disponible en vidéo avec les sous-titres. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. À très bientôt!